Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelles nouvelles du vivant ? Ce soir, notre troisième rencontre autour de cette question avec Nicole Ledouarin, chercheuse en biologie du développement et en embryologie et actuellement secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences. Quelles nouvelles du vivant ? Le vivant, ce ne sont pas seulement des faits objectifs, même si ce sont d'abord des faits objectifs, mais ce sont aussi des expériences subjectives, et même les expériences subjectives de ceux qui travaillent sur ces faits objectifs. Les expériences subjectives des biologistes, l'histoire concrète de ces vivants qui étudient le secret des êtres vivants, comme le dit l'un des titres de l'auteur que nous allons recevoir aujourd'hui, avec laquelle je suis très heureux et honoré de discuter ce soir, Nicole Ledouarin. Bonsoir Nicole Ledouarin.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. J'ai cité le titre d'un livre important que vous avez publié en 2012, Dans le secret des êtres vivants. Mais je voudrais commencer par le titre du plus récent de vos livres, Le dictionnaire amoureux de la vie, que vous avez publié en 2017 chez Plon, Nicole Ledouarin. Et pour introduire à notre conversation, on va retrouver les faits objectifs, comme je disais, du vivant. Où en sommes-nous dans la biologie que vous connaissez parfaitement aujourd'hui ? Sur votre parcours aussi, votre propre relation à ces questions du vivant, et aussi dans la science française et dans la science telle qu'elle est aujourd'hui. Mais je voudrais partir des trois mots qui composent le titre de ce livre. Les trois sont surprenants, au fond. Dictionnaire, amoureux, de la vie. Alors, vous expliquez un peu amoureux et vie, mais je voudrais partir du mot dictionnaire, parce que, au fond, le dernier article de ce dictionnaire, c'est un article consacré à votre maître, en biologie on dit un patron, hein, oui. Étienne Wolff. Alors par sa place dans l'ordre alphabétique, Wolff, il arrive à la fin de votre dictionnaire, à Nicole Ledouarin, et vous citez Étienne Wolff. Et je voudrais vous citer la citation que vous faites d'Étienne Wolff. Il dit, moi, il parle de ses études de philosophie justement, et il dit, moi qui avais tourné et retourné des idées générales, je ne me résignais pas à cette espèce de vocabulaire de dictionnaire qu'on voulait m'inculquer. Les professeurs incarnaient l'ennui, ça c'est les philosophes peut-être, qu'il a rencontrés à l'époque. Ils respiraient l'indifférence. Ils enseignaient des mots, non des choses, jamais des idées. Alors voilà, votre maître dit, il ne faut pas faire de dictionnaire, et vous, vous faites un dictionnaire. Alors c'est le premier mot, mais les deux autres sont importants aussi, sur lesquels je voulais vous interroger, Nicole Ledouarin.
C'est-à-dire que, vous savez, j'ai été sollicitée pour faire ce dictionnaire, mais je connaissais la collection.
Oui, et j'avais une collection très particulière.
Très particulière, mais intéressante. Pourquoi ? En particulier parce qu'elle laisse toute liberté à l'auteur. Donc l'auteur a un titre qu'il a choisi, et puis ensuite il peut divaguer à son aise, et selon ses connaissances, selon ses intérêts particuliers, avec un but aussi. Pour moi, le but, c'était de faire comprendre ce qu'est la biologie, et puis surtout de la faire aimer aussi, parce que c'est quelque chose qui me passionne.
Alors, le dictionnaire amoureux, vous voulez communiquer cet amour, quoi, en fait.
Alors, ça tombait bien, parce que en effet, je trouvais que c'était tout à fait approprié. Et j'avais lu déjà plusieurs dictionnaires amoureux. Et le premier, je crois, de tous, c'était Dictionnaire amoureux de la science,
d'accord,
qui avait été écrit par Claude Allègre. Et Claude Allègre avait fait allusion à la biologie, mais c'était un géologue, un physicien en réalité, et il avait envie que la biologie soit beaucoup mieux comprise, beaucoup mieux connue par le public, et il avait pensé que je pouvais le faire, et c'est comme ça que j'étais lancée dans cette aventure qui m'a donné un immense plaisir.
Alors ça, c'est un critère. Pour un être vivant, le plaisir, c'est toujours un critère.
N'est-ce
quand
pas
même. Donc c'est forcément que c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose parce que, évidemment, je connais un peu de biologie, ce qui concerne les recherches que j'ai faites, le domaine que j'ai fait. Mais c'est de la biologie, c'est un très vaste domaine. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu le loisir, je dirais, tout en ayant l'obligation aussi, morale en tout cas, de me renseigner davantage, d'étudier certains domaines Et c'est ça qui était particulièrement plaisant.
Alors, c'est un vrai dictionnaire avec un aspect un peu complet, malgré tout, en tout cas sur la science de la vie aujourd'hui. On va y revenir. Nicole Ledouarin, vous venez de dire modestement que vous avez fait des recherches, vous avez été médaille d'or du CNRS en biologie. Il y a un objet très profond dans votre recherche et dans ce dictionnaire. Mais revenons d'abord sur ces trois mots, donc toujours sur dictionnaire. Vous trichez un peu, Nicole Ledouarin, pardon, je me permets, avec les entrées classiques d'un dictionnaire.
Ah oui, parce complètement,
que,
oui.
Parce que quand même, justement, votre maître Étienne Wolff disait il ne faut pas des mots, il faut des choses et des idées. Et là, vous avez une liberté dans les entrées, comme on dit, d'un dictionnaire qui est très grande. Je vais citer la première entrée, qui commence par A. D'accord, là, vous respectez l'ordre alphabétique. Mais quand même, A, cet étonnant chant d'oiseau qui a révélé la régénération du cerveau. Donc en fait, vous trichez un petit peu, c'est-à-dire que...
J'ai inventé un A.
Oui, vous prenez le A comme le début d'une phrase et pas comme, l'initiale d'un mot. Et oui. Finalement, qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous voulez montrer tout de suite qu'il ne s'agit pas de mots, mais un peu d'histoire, d'aventure, de problèmes, de questions?
Tout d'abord, je n'ai pas écrit le dictionnaire en commençant par les mots en A.
Pas par les mots, mais quand même, vous avez respecté l'alphabet.
J'ai respecté l'alphabet a posteriori.
D'accord.
Et la plupart des gens qui écrivent ce genre de dictionnaire font ça. Il suffit de les lire pour s'en rendre compte.
Que tout le monde triche un peu, mais quand même, tout le monde ne fait pas,
autant que
ce
moi,
que
oui.
vous venez de faire, qui est magnifique. Hein, ce n'est pas du tout une critique. Je trouve que c'est plutôt une création littéraire, à vrai dire, une sorte de jeu avec le genre du dictionnaire.
Oui, c'est un peu ça.
Parce que vous dites « Ah, cet étonnant chant d'oiseau qui a révélé la régénération du cerveau ». Donc on se dit, vous construisez une phrase, mais ce n'est pas entièrement par hasard. Peut-être que c'est quand même ce que vous vouliez dire en premier, dans cette anecdote, enfin plus qu'une anecdote sur cet oiseau.
En tout cas, cette première entrée, elle est intéressante, je crois, parce qu'elle fait allusion à quelque chose d'extrêmement compliqué, et le fonctionnement du cerveau, qui reste un des grands problèmes. Et ça montre aussi qu'il faut être humble quand on est chercheur, parce que le chant des oiseaux a fait comprendre des choses tout à fait fondamentales à un monsieur qui était un ornithologue et qui était très intelligent et qui a su tirer parti des observations qu'il a faites.
Alors on va revenir à un moment sur le fond de ce que ce chant d'oiseau vous a appris et a appris aux scientifiques sur le cerveau. Mais cette humilité dont vous parlez, on l'entend aussi dans votre première lettre, au fond, puisque c'est « Ah, cet étonnant chant d'oiseau », c'est presque une dédicace. C'est comme si vous dédiez ce dictionnaire du vivant, enfin de la vie, aux vivants eux-mêmes. À cet
et
oiseau,
puis, au plaisir d'écouter les chants des oiseaux, la vie est quelque chose qui est profondément, agréable, profondément. On vit pour ça.
C'est douloureux parfois, Nicole Ledouarin, malgré tout. Le plaisir et la douleur, il est polarisé.
Alors la douleur aussi, mais en tout cas, il fait appel à des sentiments. Hein.
Alors. Justement, vous venez d'employer le deuxième mot sur lequel je voulais revenir, qui est peut-être le plus surprenant des trois, pas forcément au premier abord, mais quand on sait comment fonctionne la biologie et comment vous-même vous êtes inscrite dans la grande tradition de la biologie scientifique au plus haut niveau et vous la défendez aujourd'hui où elle doit être défendue, c'est le mot vie lui-même. Vous expliquez dans la préface qu'au départ, ça devait s'appeler dictionnaire amoureux de la biologie et que finalement, vous avez assumé le mot vie. Alors, il y a un de vos grands prédécesseurs dans des grands livres sur la vie, La logique du vivant, François Jacob, disait... on n'étudie pas la vie dans les laboratoires. C'est une phrase célèbre de ce livre, La logique du vivant. On étudie des mécanismes physico-chimiques, à la rigueur l'histoire de certains vivants. Mais la vie, pour lui, c'était une fiction philosophique. Et vous assumez la vie.
Quand on commence un livre, on se demande, enfin moi je me demande si je vais être capable de faire quelque chose qui correspond à ce qu'on m'a demandé, parce que là c'était quelque chose qu'on m'a demandé.
Oui, mais...
Alors au début...
On a eu raison de vous le demander.
Au début on m'a demandé de faire quelque chose sur la biologie, et là je me sentais tout à fait à l'aise. Puis ensuite, l'éditeur s'est dit qu'un autre titre, celui de la vie à la place de biologie, serait beaucoup plus attirant pour les lecteurs et puis permettrait peut-être aussi de sortir un petit peu d'un cadre trop scientifique.
Mais,
au fond, j'étais contente, mais alors j'étais quand même un peu inquiète parce que je me suis dit, c'est très ambitieux. J'ai fait ce que j'ai pu.
Est-ce que c'était seulement une inquiétude personnelle, de modestie ou de scrupule, ou bien est-ce que c'était aussi un scrupule, mais plus critique, un peu théorique, en disant finalement, est-ce que le biologiste étudie la vie, comme disait François Jacob ? Parce qu'à un moment donné, dans votre livre, d'ailleurs, il y a une entrée vie, il y a aussi une entrée mort. Il n'y a pas que des entrées un peu atypiques, comme la première. Il y a aussi des mots. Et finalement, vous assumez l'idée que pour faire de la biologie, il faut une certaine idée de la vie, malgré tout.
Bien sûr. Et si on ne l'a pas au départ, on l'acquiert en cours de route. Hein. Parce que vraiment, la vie elle-même pose le problème de son origine et de ce qui la distingue de tout ce qui est autour, c'est-à-dire de non-vivants. Et c'est un mystère pour l'instant qui sera peut-être résolu un jour quand on sera capable de générer la vie à partir de l'inanimé. Mais c'est quelque chose évidemment hautement qui écrire ça m'a paru être une responsabilité plus grande, si vous voulez, que d'écrire quelque chose qui s'appelait biologie.
Mais pour être non, je pense que c'est un choix très fort qui dit quelque chose aussi du moment où on est en biologie. Mais justement, c'est une idée de la vie qui résulte des sciences du vivant et non pas l'inverse. C'est-à-dire, on n'a pas une idée philosophique de la vie, métaphysique, disons, et après on fait les sciences de la vie. Pour vous, la vie, c'est quand même ce qu'étudie le biologiste. C'est un certain nombre de comportements, d'un certain nombre d'objets, d'organismes, peu à peu, enfin, au départ de cellules, vous dites, puis d'organismes.
C'est tout à fait vrai.
Qu'on observe.
Tout à fait vrai.
Voilà, c'est la science d'abord et l'idée de la vie vient après.
Absolument. L'idée de la vie vient en même temps.
En même temps.
Mais c'est tout à fait vrai. On ne part pas de la notion philosophique de la vie. On part de ce qu'on voit et de ce qui existe. Et c'est étonnant. Et ça pose des problèmes. Et les scientifiques sont là pour résoudre des problèmes. Essayer de les résoudre, en tout cas. Donc, d'être biologiste, c'est quelque chose qui, moi, m'a paru... tout à fait excitant, tout à fait passionnant.
Mais qu'est-ce qui vous étonne le plus aujourd'hui, Nicole Le Doirin ? Donc, vous êtes arrivée à la biologie par l'enseignement, vous êtes entrée dans la recherche. Aujourd'hui, donc, cette idée de la vie qui résulte, au fond, de votre travail, de ce parcours, si vous deviez la résumer, enfin, il y a une entrée, hein, et puis vous en avez plusieurs... définition que je dirais très sobre, hein, c'est les comportements des vivants à travers toutes leurs manifestations. Il y a évidemment des critères scientifiques comme la reproduction, le vivant se reproduit, mais est-ce que c'est ces idées-là, est-ce qu'il y a autre chose, quel est le point central pour vous?
Moi, d'abord, à mon avis, le phénomène qui définit le mieux la vie, c'est le fait qu'elle s'auto-reproduit.
C'est l'auto-reproduction.
Et ça, quand même, ça n'existe que chez les êtres vivants. Et ça existe chez dans la molécule qui est à la base de la vie, d'après ce que on pense actuellement, à savoir la molécule d'acide désoxyribonucléique, l'ADN, qui est capable, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, sa structure l'oblige à fabriquer le semblable d'elle-même.
À se répliquer, comme on dit, reproduire.
Et alors, au début...
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'oblige ? C'est-à-dire...
C'est-à-dire que...
Une molécule d'ADN ne peut pas se reproduire.
Oui, parce qu'elle est formée par une séquence, par une suite de quatre substances, n'est-ce pas, de quatre bases, qui sont dans un ordre bien précis. Et elle est double. Et alors, chacune de ces quatre bases s'apparie à une base particulière. Par conséquent, la duplication, c'est-à-dire le phénomène principal de la vie qui est sa capacité de se reproduire, implique que la molécule se sépare en deux et que chaque moitié fabrique la moitié autre qu'elle-même.
Donc finalement, c'est parce que l'ADN est double, avec cette double hélice, ces deux rubans qui se complètent, qui font que ces bases sont obligées de s'accoupler, pour ainsi dire, je dis ça vraiment métaphoriquement, excusez-moi.
Elles sont obligées de s'accoupler, et le fait qu'elles s'accouplent a pour effet de constituer, de fabriquer une molécule qui est identique à celle qui est complémentaire de celle qu'elle copie.
Non, c'est très clair. Ne dites pas que c'est compliqué, Nicole Le Doirin. On va creuser. C'est-à-dire, en tout cas, l'idée fondamentale, qui en fait est très frappante quand on vous écoute, c'est à la fois qu'il y a d'abord dans l'ADN une découverte fondamentale, finalement. Pour vous, il y a un avant et un après.
Oui.
Vous dites presque que c'est le secret du vivant qui a été.
Oui.
C'est quelque chose qui est irréversiblement, qui nous fait accéder à quelque chose de fondamental.
Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que un jour. les choses se sont produites dans une mixture de pièces élémentaires, ces fameuses nucléotides qui s'apparient. Et
ces petites briques du vivant.
Ces petites briques-là, et elles se sont appariées comme ça, elles se sont installées comme ça, et c'était un tel succès chimique que ça a subsisté.
Là, ce que vous nous racontez, c'est dans le monde, sur la planète Terre. À un certain moment, c'est produit ce que vous racontez.
Oui,
c'est pas dans un laboratoire.
Dans
la soupe primitive.
Dans une soupe primitive. Et alors, il s'est formé une molécule qui n'était pas l'ADN.
La toute première
molécule.
Il
y a une petite différence dans un des composés de chacune des parties. Au lieu d'être du désoxyribose, c'était du ribose, c'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène chimique qui a changé un tout petit peu ce sucre et qui a fait que cette molécule qui est ADN et qui était la deuxième à apparaître après l'ARN, acide ribonucléique, c'est devenu acide désoxyribonucléique, eh bien elle était beaucoup plus stable que la première.
Et donc pour vous...
Le fait qu'elle soit beaucoup plus stable que la première a permis... lui a permis de subsister, de produire toujours des modifications subtiles dans la séquence des fameuses bases. Et c'est ces modifications subtiles qui ont été à l'origine de la biodiversité que l'on voit aujourd'hui. Mais pour aller depuis cette molécule jusqu'à la multiplicité des espèces et des formes qui est immense en ce moment, mais qui est encore plus immense si vous considérez tout ce qui s'est passé avant, tous ces animaux et tous ces végétaux et tous ces autres organismes qui ont disparu, eh bien vous vous dites que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et que ça vaut la peine de consacrer du temps à essayer de comprendre un tout petit peu de ce qui a pu se passer et de ce qui se passe.
Ça vaut une peine qui procure beaucoup de plaisir, visiblement. Mais pour être très précis, Nicole Ledoirin, donc tel que vous le racontez cette histoire, et vous la racontez comme une histoire, justement, et on ne peut pas faire autrement avec le vivant, c'est quelque chose qui se raconte, qui a une histoire, qui passe par le temps.
Le temps est là.
Il y a donc deux, disons, molécules chimiques qui se rencontrent d'abord, mais chimiquement, j'allais dire. Et puis, elles ne sont pas encore assez stables pour que leur diversité soit en même temps cadrée par une stabilité. Et puis, à un moment donné, ce que vous racontez, là, c'est tel que je viens de le comprendre, il y a un petit phénomène chimique et il se constitue quelque chose qui est à la fois stable et divers. Et c'est là que, d'après vous, c'est là le seuil du vivant. Là, on peut parler du vivant.
Oui, et qui ressemble à la molécule originelle, l'ARN.
Oui.
Elle lui ressemble beaucoup, mais elle est stable. Tandis que l'ARN, elle existe toujours parce que elle est indispensable ensuite dans les mécanismes de la vie pour fabriquer les molécules qui sont les plus importantes dans la constitution du vivant, des cellules. Ce sont les protéines.
Mais ce que je trouve fascinant, Nicole Ledoirin, permettez-moi d'insister un instant, c'est mon travers philosophique, mais justement apprenant des scientifiques et non pas imposant une idée a priori. Finalement, on peut parler du vivant, d'après vous, dès qu'il y a quelque chose de stable, mais qui va changer. Il faut les deux.
Oui, alors
c'est trop changeant, on reste dans le...
C'est stable,
On n'a pas quelque chose qui change, mais si c'est totalement stable, ce n'est pas le vivant non plus.
Non, ça c'est juste, c'est très juste, je vous félicite.
Merci.
C'est vrai, mais ça change. Et le changement est d'une importance capitale. Parce que c'est ça qui a créé ce que nous voyons aujourd'hui, la diversité des êtres vivants. Alors, vous comprenez. Et alors, cette diversité, ça a commencé, on en est certain, par des êtres unicellulaires, des bactéries.
Voilà,
un peu comme les bactéries.
Dans votre définition de la vie, dans votre dictionnaire amoureux de la vie, et on comprend mieux maintenant pourquoi vous assumez ce mot, c'est pas juste pour... par plaisir d'affronter ces grandes idées humaines. Voilà, dans votre entrée vie, vous dites effectivement, au début, il y a des cellules, puis des organismes composés de multiples cellules.
Oui. Alors, ces cellules, évidemment, des organismes, elles proviennent de la division de cellules initiales. Et dans des êtres comme nous, qui sommes si compliqués, eh bien, il y a une seule cellule à l'origine de ça. Et ça, c'est quelque chose, quand on y réfléchit, quand même, qui est absolument extraordinaire.
Mais ce qui est extraordinaire, Nicole Ledoirin, c'est que aujourd'hui, à partir de cette table d'orientation de ces découvertes, au fond, de l'ADN et puis du génome, progressivement, on peut à la fois remonter à l'origine, on peut expliquer comment il y a aujourd'hui encore des cellules qui portent en elles cette potentialité, celles qu'on appelle les cellules souches, on va y revenir ensuite, et ça va induire des transformations. Les humains eux-mêmes font partie de l'histoire de la vie, non seulement parce qu'ils en sont le résultat, mais maintenant nous allons transformer cette histoire elle-même.
Oui, les changements à venir sont certainement aussi importants que les changements passés.
Et vous-même et vos collègues, vous les assumez, ces changements, Nicole Ledorin, la responsabilité du savant, on va en parler aussi, elle est très grande.
Elle est grande, oui, mais elle est noble. Et par conséquent, elle mérite de persévérer.
Vous dites qu'elle est noble. En effet, les vivants humains sont pris dans la vie elle-même qu'ils travaillent, avec une grande noblesse, parfois certains risques, évidemment, qu'il faut aborder éthiquement. Un des signes de cette présence du vivant dans la vie, c'est aussi l'art, la littérature, la musique. Oui. Vous nous avez proposé, pour jalonner cette conversation, une œuvre musicale qui parle du vivant à sa manière.
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant? Toujours notre troisième rencontre sur ce thème avec Nicole Ledouarin, biologiste, médaillée d'or du CNRS, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et visiblement admiratrice de Beethoven, Nicole Ledouarin. La symphonie pastorale, c'est pas juste parce qu'elle est pastorale, elle n'évoque pas le vivant seulement par un thème, comme un programme,
comme on dit
d'une œuvre. La musique elle-même est vivante.
Elle vous transforme. Elle vous fait naître en vous quelque chose qui est merveilleux.
La musique fait partie de ce que l'humain crée dans son environnement vivant, précisément par cette puissance de transformation, par les effets qu'elle a sur nous, de plaisir, vous parliez également comme étant essentiel au vivant.
Oui, je pense, oui. La musique, en tout cas, pour moi, c'est une source de joie formidable.
La culture, Nicole Ledouarin, fait partie des inventions du vivant humain, fait partie de la vie. Elle n'est pas quelque chose qui serait un luxe par rapport à la vie, elle est centrale.
C'est la vie elle-même, hein. C'est un aspect de la vie.
Alors, Nicole Ledouarin, vous définissiez la vie dans la première partie de cette conversation par sa puissance de transformation, en même temps dans la stabilité. Votre travail scientifique a porté sur un élément clé, évidemment, dans le vivant, qui est les transformations dans sa genèse, dans l'organisme individuel, à travers l'embryologie, au fond. Oui. Et même dans l'embryologie, si j'ai bien compris, hein, j'ai lu à la fois dans Le secret des vivants, qui raconte votre parcours, et le dictionnaire amoureux de la vie. Vous travaillez sur des migrations de cellules, des cellules qui, au départ, sont dans un endroit du cerveau, mais qui va disparaître dans la croissance de l'embryon, et puis on les retrouve ailleurs. Donc, toutes ces transformations, pourquoi est-ce que c'est essentiel d'étudier cela chez l'embryon, Nicole Ledouarin?
Parce que, quand on est embryologiste, on voudrait bien savoir comment on peut passer d'une cellule unique qui va se diviser, produire des cellules identiques pendant un certain temps, et puis ces cellules vont continuer de se diviser, mais vont se diversifier, et vous allez avoir quelque chose d'aussi complexe qu'un être humain. Et alors, les choses, comment ça se passe? Comment est-ce que, à partir de la massive de cellules toutes semblables, on peut avoir des yeux, on peut avoir un cerveau, on peut avoir des mains, on peut avoir toutes sortes, toutes les choses extraordinairement complexes et qui le sont particulièrement chez les vertébrés, mais qui le sont moins dans des êtres plus simples. Mais alors, on cherche désespérément à suivre les cellules, ces cellules qui apparaissent. Qu'est-ce qu'elles vont faire?
On voudrait savoir
le destin de chacune des cellules qui est produite. D'ailleurs, il existe des recherches qui arrivent à ce but.
C'est-à-dire qu'ils suivent la vie, pour ainsi dire, d'une cellule depuis le début de l'organisme jusqu'à
la formation d'une... Il s'agit d'un petit ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans, que un biologiste...
Très joli nom pour un ver, si je peux me permettre.
Qu'il est petit, il est blanc, il est transparent et il s'élève bien. Et alors, il y a un biologiste qui est Sidney Brenner, prix Nobel d'ailleurs, et qui s'est aperçu qu'on pourrait peut-être faire des recherches sur ce petit ver parce que on pourrait suivre à partir de l'œuf comment on arrive à ce petit ver qui ne contient pas énormément de cellules, mais enfin, qui est quand même assez complexe. Il a toutes sortes
d'organes. C'est déjà pas mal, hein, quand même. Ouais.
Et alors, il y a un chercheur qui s'est attelé au microscope à regarder l'œuf de ce ver se multiplier petit à petit. Et il s'est aperçu qu'il y avait toujours le même nombre de cellules qui étaient formées et qu'au cours de la formation de ces cellules dans les premiers stades du développement, un certain nombre de cellules allaient mourir. Et toujours les mêmes.
Toujours les mêmes.
Et toujours au même moment. Et il a pu suivre comme ça le destin de chaque cellule. Et c'était une espèce de nouveauté extraordinaire parce que ça lui a permis de comprendre énormément de mécanismes. Et c'est ça qu'on voudrait faire chez l'homme. Mais c'est complètement impossible parce qu'il y a trop de cellules.
C'est peut-être impossible, Nicole Ledoirin, mais il y a quand même des étapes très importantes. Par exemple, pardon de vous interrompre, mais je vais vous relancer sur un point qui me paraît central aujourd'hui, y compris pour la recherche et pour l'éthique. Vous avez employé une expression en passant comme ça dans ce que vous venez de raconter. Vous avez dit au départ, il y a des cellules toutes semblables. Mais on a mis très longtemps à découvrir que derrière la diversité de nos organes, au départ, il y a quelques cellules qui potentiellement peuvent devenir des cellules du cœur, du cerveau, du foie, du rein, ce qu'on appelle les cellules souches.
Et alors écoutez, voilà, ces cellules dont je vous parlais...
C'est une découverte fondamentale, là aussi.
Tout à fait. Ces cellules dont je vous parlais qui sont toutes semblables, eh bien, ce sont des cellules souches.
Voilà.
Chacune de ces cellules être capable de faire tous les types cellulaires.
Donc la souche, la souche, contrairement à une image qui en politique est très dangereuse d'ailleurs, la souche c'est pas une racine avec une identité, au contraire la souche c'est ce qui peut tout donner, c'est l'origine de la diversité.
C'est l'origine de la diversité. Alors ces cellules, on a pensé pendant très longtemps qu'elles étaient pluripotentes, comme on dit, elles sont capables de faire tout, ou totipotentes, encore mieux, pendant un certain temps, mais on pensait qu'elles allaient toutes décider de devenir quelque chose et elles resteraient dans cet état. Et on s'est aperçu que ça n'était pas le cas.
Certaines restent...
On s'est aperçu que certaines cellules gardent leur potentialité et elles sont en réserve chez nous, dans tous nos organes. Et alors tout ça, ça nous a démontré quelque chose de fondamental qu'on ne savait pas du tout, c'est que quand nous sommes bébés, nous avons des joues, nous avons des muscles. On pensait que les muscles allaient s'accroître, devenir adultes.
Oui.
En réalité, ce qu'on a trouvé, c'est que c'est vrai que les muscles vont devenir comme
quand
ça,
même, oui.
Mais que ce n'est pas les mêmes cellules qui sont là au début et qui sont là quand vous avez 50 ans, ou que c'est là quand vous avez 10 ans. Ce sont des cellules qui se renouvellent en permanence. Ce qui veut dire que dans notre corps, on a un renouvellement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais ce renouvellement est très faible au niveau du cœur. Les cellules du cœur, elles sont là et elles continuent de marcher.
Nous avons des cellules qui sont restées les mêmes depuis notre stade embryonnaire, dans notre cœur.
Les cellules du cœur se renouvellent très peu. Et la discussion est restée longtemps ouverte de savoir s'il y avait des cellules souches dans le cœur. Alors, il y en a qu'un petit peu, mais elles n'ont aucun rapport avec celles qui, par exemple, remplacent la peau en permanence ou remplacent le sang en permanence, vous voyez.
Mais alors,
et puis, alors, le cerveau aussi.
Mais quand même, Nicole Ledouin, pourquoi à ce moment-là, si nous avons tous des cellules souches, qui d'ailleurs vont sans doute prochainement servir aussi pour des soins médicaux, pour des traitements, pour des thérapeutiques, pourquoi est-ce qu'on insiste dans la recherche, et c'est un sujet de débat éthique aussi, et politique, sur les cellules souches embryonnaires. Qu'est-ce qu'elles ont quand même de particulier qui fait que la recherche scientifique aujourd'hui a besoin de travailler avec et dessus ?
Et ce sont celles qui sont les plus qui ont le plus de potentialité, c'est-à-dire qui peuvent donner véritablement tous les types cellulaires de l'adulte. Et ça n'est pas le cas des cellules souches que vous avez, par exemple, dans la moelle osseuse et qui fabrique le sang. Ces cellules souches-là, c'est des cellules qui sont déjà déterminées à faire quelque chose et pas autre chose. C'est-à-dire à donner des cellules sanguines diverses, certes, mais tout de même,
il y en a
d'autres qui sont des cellules souches de muscle, il y en a d'autres qui sont des cellules souches de l'épithélium intestinal, par exemple, qui se renouvellent énormément, ou les cellules de la peau.
Et donc, dans l'embryon, en revanche
Dans l'embryon humain en particulier. Alors, dans l'embryon humain, les cellules souches ont beaucoup plus de potentialités. Elles ont des capacités qui sont plus diversifiées que les cellules souches qui sont dans les organes et déjà déterminées pour fournir des types cellulaires bien précis. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ça dépend ce qu'on veut faire comme expérience. Si on veut des cellules qui ont beaucoup de potentialités pour faire des types d'expériences particuliers, il faut prendre des cellules souches embryonnaires.
Donc j'allais vous demander, j'imagine que c'est à la fois pour le savoir scientifique, pour comprendre le développement de ces cellules plus diverses encore que les autres, potentiellement, et puis aussi sans doute pour des applications thérapeutiques. Mais Nicole Ledouin en parlait au début d'une idée de la vie qui anime le biologiste. Il y a évidemment cette idée résulte des sciences du vivant, c'est le savant qui nous apprend ce qu'est la vie. Et donc c'est aussi essentiel pour savoir ce qu'on peut et ce qu'on doit faire avec le vivant. Il y a aujourd'hui un débat éthique sur les cellules souches embryonnaires. Vous ouvrez d'ailleurs votre livre aussi, le dictionnaire amoureux de la vie, sur cette question. C'est la deuxième entrée, l'alliance de la biologie et de l'éthique. C'est votre deuxième jeu avec le A.
Oui.
Mais Nicole Ledouin, pour vous, il y a des critères très clairs, au fond, de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire avec le vivant et avec les cellules souches, par exemple, moralement ou politiquement.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut être très respectueux du statut de l'homme. Et qu'on peut faire des choses sur d'autres organismes, mais qu'on ne doit pas faire chez l'homme. Ça me paraît tout extrêmement clair. Mais alors, il y a quand même quelque chose...
Mais en revanche, il y a des préjugés aussi qui peuvent bloquer la recherche. Pour vous, travailler sur... Le mot embryon, par exemple, dans cellule embryonnaire, ne doit pas être pris comme un blocage pour bloquer la recherche. Ce n'est pas encore un être vivant auquel on porterait atteinte.
Une question qui est philosophique. Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où les deux gamètes se sont réunis, la cellule a acquis ce que les chrétiens appellent une âme et par conséquent sont des êtres à part entière, tout aussi respectables, qu'on doit protéger tout autant que quand ils ont déjà produit un embryon plus avancé et un être humain. Ça, c'est une question que la science ne peut pas résoudre. Mais quand même, je crois que, pour ma part, en tout cas, pour ma part, je considère que tant qu'on n'a pas les structures qui caractérisent un être humain, et en particulier le cerveau, on doit pouvoir étudier les stades précoces du développement. Ceci pour le bien, d'ailleurs, de l'humanité. Hein.
C'est le deuxième aspect de des critères que vous donnez de l'éthique. C'est à la fois ce sur quoi on peut ou non travailler. Évidemment, on ne peut pas faire d'expérimentation sur l'humain. On peut pas, mais en même temps, dans les usages même de ce qu'on autorise en principe, après, c'est ça qui est essentiel. Pour vous, ce qui rend une démarche scientifique éthique, c'est sa finalité aussi. C'est qu'elle puisse aboutir à soulager la vie humaine de certains maux. Est-ce que pour vous, le rapport à la médecine a toujours été très important, Nicole Ledouin? Vous êtes chercheuse en biologie, mais vous avez aussi eu un rapport très fort à la médecine.
Ah oui, toujours. J'ai toujours considéré que la fréquentation des médecins, et puis les médecins d'ailleurs sont intéressés par ce type de travaux et la façon dont on essaye de décrypter des phénomènes que eux observent, mais sans savoir comment toujours gérer les dysfonctionnements.
Est-ce que bien pour conscience vous, les pathologies, les maladies, au fond, sont aussi des entrées vers la recherche? Est-ce que vous partez des pathologies pour comprendre le fonctionnement normal? Est-ce qu'il y a une sorte de cercle vertueux comme ça, malheureusement,
la pathologie? Non seulement on part des pathologies, mais il est clair qu'on peut, sur des animaux, provoquer des pathologies qui sont ou bien des copies des pathologies qu'on trouve chez l'homme, ou bien des pathologies autres, mais qui ont pour but de faire comprendre le fonctionnement normal.
Mais il y a quelque chose d'absolument fascinant que vous faites plus que croiser, qui a été fondamental dans votre parcours, Nicole Douarin, c'est effectivement l'expérience parfois produite de ce que vous appelez tantôt les monstres. C'est ce sur quoi travaillait votre maître Étienne Wolff, oui. Une thératologie qui nous permet de comprendre le fonctionnement normal. Et vous-même, vous parlez de chimères. Vous avez vous-même produit des chimères, c'est-à-dire des croisements d'espèces qui ne se produisent pas dans le réel.
Ah, oui.
Et c'est au cœur d'une de vos découvertes, Nicole Ledouarin.
Oui, c'est ça. J'ai eu l'idée d'associer des tissus provenant de deux espèces d'oiseaux, parce que j'ai observé par hasard qu'on pouvait reconnaître les cellules, même à l'échelle d'une cellule particulière au milieu de cellules de notre espèce, par la structure du noyau cellulaire. Alors, ayant vu ça, et étant donné que les oiseaux en question étaient des espèces qui sont élevées par l'homme, parce que ça sert de nourriture à l'homme,
c'est
à savoir
le poulet,
et la caille, j'ai pas eu de difficulté à trouver des œufs. C'était pas nécessaire que j'aille chasser les petits oiseaux.
Mais quel était le but exactement de les croiser, de produire des chimères? La chimère étant justement comme la licorne, une sorte d'animal.
C'est parce que justement, je travaillais sur le système nerveux, n'est-ce pas? Et alors, le système nerveux, au départ, c'est une espèce de couche de cellules superficielles qui devient tout à fait particulière, très épaisse, et qui commence à se développer d'une façon très différente du reste de la couche superficielle. Parce que le reste de la couche superficielle donne l'épiderme qui compose. Tandis que cette partie-là va fournir le cerveau et la moelle épinière.
Les replis deviennent la matière grise.
Le cerveau et la moelle épinière. Alors, au lieu de rester plane, cette structure qu'on appelle l'ébauche neurale, elle va se recourber comme ceci, former un tube, et va fournir la moelle épinière et le cerveau.
Et le cerveau. Bon.
Mais au niveau où les deux bords se rassemblent, on voit que les cellules...
Vous appelez la crête neurale.
Oui, ça fait comme une crête.
C'est dans vos deux livres, ça a l'air d'être l'enjeu central.
Ça fait comme une crête. Mais cette crête, elle est temporaire.
Oui.
Et parce que les cellules qui la composent s'enfuient. Mais où vont-elles? Que font-elles? C'est quand même intéressant à savoir.
Et donc,
c'est une énigme qui est claire.
Et donc, vous mettez les cellules d'un oiseau dans un autre pour pouvoir suivre son parcours, son destin.
Je prenais un poulet. J'enlevais le tube neural avant qu'il se referme du poulet à un endroit donné.
Et vous mettiez un peu de la caille.
Je mettais exactement le même, provenant d'un embryon du même âge, du même stade.
D'une petite caille.
Oui. Je le mettais à la place.
Et ça vous permettait de suivre.
Alors, tout ça se fusionne. Le tissu de caille se trouve très bien chez le poulet. Ça se développe parfaitement bien. Et alors, moi, après, je faisais des coupes. Et puis, je regardais où étaient les cellules qui avaient un noyau particulier, qui était le noyau de caille. Et comme ça, j'ai fait une espèce d'inventaire. C'était très amusant à faire, je vous assure, de devenir de cellules. Alors, j'ai trouvé des choses qui n'étaient pas connues, en particulier qu'elles faisaient des certains types d'organes, des ganglions très éloignés de leur... Toutes les cellules mélaniques, vous savez.
La partie de la caille que vous mettiez dans le poulet restait, au fond, avec ses caractères initiaux. Et vous pouviez donc travailler sur son histoire.
Les cellules se trouvaient très bien chez le poulet parce que ce sont les mêmes signaux qui, chez cette espèce, chez le poulet et chez l'homme d'ailleurs aussi, conduisent c'est l'île à aller dans un endroit ou dans un autre.
Alors, ce qui est fascinant, donc, Nicole Le Doirin, c'est que cette étude des transformations du vivant conduit à des processus thérapeutiques, c'est leur fonction. Il y a évidemment le risque qu'elles servent aussi à autre chose. Il y a toujours ces risques avec les sciences, qu'elles servent aussi à détruire ou qu'elles servent à... On peut faire des armes avec la biologie, malheureusement, des armes biologiques. Il y a aussi quelque chose de fascinant dans le vivant lui-même, c'est que plus il progresse, plus il s'individualise. Il y a des cellules que vous dites immortelles, en particulier l'ADN lui-même, dans sa structure de base, vous dites qu'il est immortel. Mais finalement, plus c'est compliqué, plus ça devient fragile, précaire et même mortel. Vous dites que la mort, au fond, ne concerne que les êtres de plus en plus compliqués, de plus en plus singuliers. C'est d'ailleurs ce que vous dites dans l'entrée mort de votre dictionnaire amoureux de la vie, Nicole Le Doirin.
Oui, parce que si vous considérez les bactéries, par exemple, voilà. Elles se divisent en permanence. Et alors, on peut dire que franchement, elles ne meurent jamais.
Elles ne meurent jamais
parce qu'une cellule, elle va se diviser en deux cellules qui seront jeunes, qui rapidement vont se diviser en deux cellules qui seront jeunes aussi.
Et qui seront identiques.
Ah, elles sont identiques.
Donc, il ne se passe rien non plus.
Elles ne meurent pas, grand-chose.
Est-ce qu'elles vivent, d'après vous? Oui, elles vivent, mais...
Elles vivent, oui, mais la preuve, c'est qu'elles sont capables de se multiplier et qu'elles ont été capables d'émerger les premières, d'ailleurs. Avec la vie, et qu'elles sont encore là.
Mais alors,
très diversifiées.
Mais en revanche, dites-vous, dans l'article mort de votre dictionnaire amoureux de la vie, et il faudrait revenir sur beaucoup d'autres articles, mais malheureusement le temps passe vite, vous dites, je vous cite, que cela, finalement ce qu'on vient de dire, conduit à une idée dont on ne peut nier la dimension abyssale. Tout se passe comme si la conquête d'un haut degré d'intégration des organismes, d'une individualité riche et affirmée, se payait de la mort. Ceux qui sont irremplaçables sont mortels. Et là, vous inversez ce qu'on a envie de dire humainement. On a envie de dire que quelqu'un qui meurt est irremplaçable. Mais vous, vous dites, que c'est vrai, sans doute, mais que, au fond, c'est parce que nous sommes irremplaçables que nous sommes mortels. C'est parce que nous sommes devenus singuliers, nous sommes devenus individuels, que nous sommes fragiles. Alors que les bactéries sont peut-être immortelles, mais sont toutes les mêmes.
C'est vrai.
C'est vous qui l'avez dit, Nicole Le Doirin.
Mais oui, mais c'est, si on réfléchit un peu, on aboutit à ce genre de conclusion.
Je trouve cette phrase « ceux qui sont irremplaçables sont mortels » tout à fait fascinant, comme s'il y avait une sorte de chiasme. Ceux qui sont immortels sont fondamentaux aussi pour la vie. Vous dites que l'ADN, et ça fait partie de ce côté irréversiblement fondamental pour la vie, est immortel et est toujours là.
Oui.
Mais en même temps, nous qui sommes composés d'une histoire très complexe, nous sommes...
Mais nous avons quand même une façon de sauver la vie. C'est que nous faisons des cellules... Des cellules, des gamètes, nous faisons des cellules reproductrices qui possèdent exactement notre génome.
Oui, mais qui ne possèdent pas notre histoire. Nous restons irremplaçables, Nicole Doirin. Chacun
vrai,
avec sa vie.
Mais
sa
nous
vie
pense...
aussi.
C'est vrai.
La biographie autant que la biologie.
Mais nous pensons à l'avenir. Parce que nous avons ces cellules qui vont permettre de...
On n'a pas eu le temps, mais c'est une toute dernière question. La biographie, pour vous, fait partie de la biologie, Nicole Le Doirin. La manière dont la vie humaine est aussi une vie singulière, une histoire, histoire
ça
personnelle.
Ça fait partie de la biologie. C'est encore plus compliqué. C'est encore un champ de complexité qui s'ajoute à celui de la vie telle que je la décris.
Merci beaucoup, Nicole Le Doirin. Matière à penser, quelle nouvelle du vivant ce soir avec Nicole Le Doirin, grâce aussi à Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms qui vous donne rendez-vous demain avec Frédéric Weinmann.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi.
Bonsoir.
Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que je t'apprenne par cœur. méditation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?